Chapitre 7. Lorenzo avait décidé de s'arrêter au passage chez les Herri, auxquels il voulait faire la connaissance d'Hélène. L'infirme et sa famille habitaient à l'entrée de la ville, une maisonnette décrépite, à demi ruinée, qu'entourait un petit clos. Celui-ci était cultivé par Madame Herri, mais depuis que Lorenzo avait renoué les relations avec son ami d'enfance, il venait presque chaque jour bêcher, sarcler, arroser, en vue de soulager la courageuse jeune femme qui, après quelques protestations, avait dû céder à cette amicale volonté. En vérité, il ferait beau voir qu'avec ma force physique et me trouvant sans occupation pour le moment, je vous laisse faire ce travail auquel vous n'êtes pas accoutumé, disait Lorenzo. Je n'ai que cette aide-là à vous offrir, mais je le fais de bon cœur, en toute simplicité. Acceptez-le de même et n'en parlons plus. Mais les Herri étaient des âmes reconnaissantes. Hélène, tandis que Madame Herri lui faisait visiter le petit jardin bien entretenu, entendit un éloge ému de son cousin, si bon, si délicatement obligeant, le véritable ami en un mot. Georges se sent plus de courage depuis qu'il le voit, qu'il sait pouvoir compter sur lui, ajouta la jeune femme. Et les enfants l'aiment tant! Hélène appuya chaleureusement. « Oh oui, il est bon, très bon. Je l'ai éprouvé par moi-même. » Dans une des deux pièces qui composaient le logis, M. Herri faisait des copies de dessins pour un industriel de la région. Il avait interrompu son travail pour recevoir ses hôtes et s'efforçait de montrer quelque entrain. Mais un lourd souci couvrait d'ombre son regard, creusait plus encore son pâle visage. Hélène était accueillie ici avec une amicale bonté. Par Lorenzo, les Herri savaient qu'elle n'était pas heureuse, et ces pauvres gens si éprouvés eux-mêmes lui offraient ce qu'ils possédaient, leur sympathie. Tandis que les petites filles s'amusaient au seuil de la porte, surveillées par leur mère, Joseph, l'aîné, un joli bambin de 6 ans, avait été enlevé entre les bras de Lorenzo. De là, il considérait Hélène avec attention. Puis, levant les yeux sur le jeune homme, il déclara gravement « Elle est gentille, la demoiselle, et je l'aime beaucoup. Autant que moi, Jojo. Pas encore. Vous, je vous connais depuis plus longtemps. » Rieur et tendre, le petit être s'appuyait contre Lorenzo. Celui-ci, en caressant les joues trop pâles, demanda « As-tu bien pris aujourd'hui ta leçon de lecture, petit Jojo ?»« Oui, très bien. Maman m'a donné un bon point. Ça fait 18 que j'ai, monsieur. » « Parfait. Quand tu arriveras à 20, je te donnerai quelque chose en récompense. Voyons, dis-moi ce que tu voudrais. » L'enfant hésita, soupira sans répondre. « Allons, dis, qu'est-ce qui te ferait plaisir ?» Joseph chuchota. « C'est trop cher. »« Quoi donc ? » ?»« Un grand cheval comme celui qui est dans le magasin de la rue Neuve. » »«
Un cheval en carton ?»«
Pas en carton. » « Un avec de la peau dessus. Il coûte 30 francs. C'est trop cher. » Et Joseph soupira de nouveau. Lorenzo secoua la tête.
« En effet, du moins pour ma bourse en ce moment. Nous verrons à te contenter d'une autre manière, mon mignon. Et quand je serai riche, je te promets de t'en donner un, mais un vrai, celui-là, en chair et en os. »
Joseph ouvrit de grands yeux stupéfaits. « Un vrai cheval, pour moi tout seul ?»
Oui, pour toi tout seul, un très joli petit cheval, pas plus grand qu'un gros chien.
Oh, monsieur, quand est-ce que vous serez riche, dites !
Lorenzo se mit à rire en faisant sauter l'enfant sur son genou.
Ce n'est pas encore aujourd'hui, comme tu le vois, mon petit. Il faut te contenter pour l'instant de cette monture-là.
Georges demanda : Tu n'as encore rien de fixé pour cette situation que tu avais en vue ?
Lorenzo répondit négativement, sans s'étendre sur ce point. Pas plus avec son ami qu'avec d'autres, il ne se montrait communicatif dès qu'il était question soit de son passé, entre le moment de son départ et celui où il avait reparu à Treillac, soit de son avenir, de ses projets. Georges s'en étonnait et parfois un soupçon traversait son esprit. Y avait-il dans ce passé quelque tâche ? Ou bien cet homme vigoureux, intelligent, d'apparence énergique,
d'esprit cultivé, ne serait-il en réalité qu'un paresseux, peu pressé de s'adonner au travail, de trouver la situation qui lui procurerait les moyens de vivre ? Mais, en présence de Lorenz, les doutes de Georges s'effaçaient. Il ne restait que sa confiance, sa reconnaissance émue pour l'ami qui s'efforçait de lui rendre service, d'alléger son fardeau et celui de sa femme. Interrogées par leurs hôtes, Mademoiselle Lambert et Hélène racontèrent leur visite à Archancy. Mademoiselle Madeleine ajouta « Malheureusement, notre plaisir a été un peu gâté par la présence de Mademoiselle Trémon et de ses amis, arrivés presque en même temps que nous. Vraiment, cette Camille prend un genre de plus en plus mauvais. Elle espère sans doute mieux attirer ainsi le riche prétendant, objet de ses rêves. Mais se trouvera-t-il un sot pour tomber dans ce panneau-là » Lorenzo dit ironiquement « Il y a toujours des sots de par le monde, mademoiselle, et c'est sur cela que comptent les femmes telles que mademoiselle Trémon. » Madame Héry fit observer « C'est une assez belle personne. Si elle avait d'autres allures... »« Oui, et un peu de cœur. Cela lui fait totalement défaut. Il est regrettable que ma sœur en ait fait son amie intime, ce qui ne se voit que trop à ses manières. » Peu après, les visiteurs prirent congé. Georges accompagna ses hôtes jusqu'à la barrière du clos. Il marchait à l'aide d'une canne, en boitant beaucoup. Joseph s'était pendu à la main de Lorenzo. De côté, il regardait son père. Tout à coup, il dit à mi-voix « Monsieur, s'il vous plaît, voulez-vous vous baisser un peu? C'est pour vous dire quelque chose, et il ne faut pas que papa entende. » Lorenzo se pencha et le prit dans ses bras. « Quoi donc, Jojo ?» Approchant sa petite bouche de l'oreille complaisamment tendue, l'enfant chuchota « Quand vous serez riche, au lieu de me donner le cheval, vous le donnerez à papa, s'il vous plaît, avec une petite voiture, parce que ça lui fait mal de marcher comme ça. » Lorenzo rit avec un peu d'émotion en serrant contre lui le petit garçon. « Entendu, Jojo, une voiture et un cheval pour ton papa. Je mets cela dans ma mémoire afin de l'en sortir quand il faudra. » Joseph secoua la tête en déclarant d'un air désabusé « Moi, je ne crois pas du tout que vous deviendrez riche. C'est très difficile, dit maman. Et nous aussi, nous sommes très pauvres. » Tout bas, en confidence, il ajouta « Nous n'avons eu qu'un tout petit morceau de pain hier avec des légumes. Maman n'avait pas de quoi payer le boulanger. » Cette fois, la lueur d'émotion se fit plus vive dans les yeux noirs. Sans mot dire, Lorenzo mit un baiser sur la joue amaigrie avant de reposer l'enfant à terre. Et sa poignée de main à Georges Héry se fit plus longue, plus cordiale encore que de coutume. Ce soir-là, quand Lorenzo, parlant de sa visite au château, mentionna la présence de Mademoiselle Trémon et des Cornimard, Madame d'Emplem et Jeannine ne purent dissimuler complètement leur vive contrariété. « Quoi ? Un si pauvre personnage, portant le même nom qu'elle, s'était rencontré avec l'élégante Camille et ses riches amis. Véritablement, ce Lorenz était une perpétuelle source d'ennuis de toutes sortes. » Quelques jours auparavant, tandis qu'elle se rendait à un goûter chez Madame Trémon, ne les avait-il pas accostés dans la rue et ne s'était-il pas à marcher près d'elle en disant avec désinvolture qu'il s'en allait dans la même direction ? Jeannine se mordait les lèvres de colère. Madame d'Emplem jetait autour d'elle des coups d'œil anxieux dans la crainte de voir apparaître quelqu'un de ses connaissances. Lorenzo, très à l'aise selon sa coutume, les avait accompagnés jusqu'à la porte de la maison Trémon. À cet instant, y arrivait un groupe élégant dont la vue faisait monter une rougeur d'humiliation aux joues de la mère et de la fille. Deux personnes avaient répondu au salut de Lorenzo, tandis que les autres le toisaient avec un air de dire « Qu'est-ce que celui-là ? » Une autre fois, un dimanche, ce Lorenzo n'avait-il pas eu l'impudence de se mettre en avant à l'église, de façon que tout le monde pût voir son complet usagé ? Et en sortant, il était passé près du groupe caquetant de ces dames d'Emplem, Loriot, Barbelier et compagnie, sans vergogne, saluant avec aisance et même, eût-on dit, avec quelque hauteur. « De la hauteur !» Lui, cet individu, se rater. En vérité, c'était à rire. Toutes ces pensées de sa belle-mère et de Jeannine, le jeune homme les devinait aisément. Il paraissait, du reste, n'y attacher aucune importance, et même semblait aller au-devant des menus affronts et froissements que lui réservaient sa parenté et quelques-uns de ses anciens amis. Ainsi, Émile Monceau continuait de l'éviter. Voulant demander à Maître Loineau un renseignement au sujet du testament de son père, Lorenz se rendit un après-midi à l'étude. Le premier clerc, joli garçon poseur, ennuyé d'être dérangé dans une lecture intéressante, lui répondit sèchement que Maître Loineau n'était pas là, qu'il n'y avait que son gendre et successeur, M. Monceau. « Eh bien, annoncez-moi à lui, » dit Lorenzo. Froissé par le ton impératif, le clerc, avec une visible mauvaise grâce, alla au cabinet notarial et revint en disant « Maître Monceau vous attend !» Émile, correct et ennuyé, accueillit Lorenzo sans cordialité. Il déclara ne pouvoir lui fournir le renseignement demandé, mais il en parlerait à son beau-père qui enverrait la réponse. Puis, voyant que son ancien camarade, confortablement assis dans un fauteuil de cuir, semblait disposé à continuer la conversation, il se souleva sur son siège en disant « Pardon, j'ai un rendez-vous à 4 heures avec un client et je suis obligé de partir dans quelques minutes. » « Ah, très bien, mon cher, surtout si c'est un riche client. Il ne faut pas le faire attendre pour le seul plaisir de causer avec un ami d'autrefois. »« Oui, il n'est pas mauvais. Au revoir. » Mollement, Émile serrait la main de Lorenzo. Puis, avec condescendance, il ajouta « Tu m'excuseras de ne t'avoir pas encore rendu la visite que tu nous as faite, mais je suis fort occupé. » « Oh, cela n'a pas d'importance. Ne te gêne pas, va, c'est inutile. » L'air de désinvolture, le ton quelque peu narquois de Lorenzo produisirent sur son ex-ami une impression désagréable, celle de sentir qu'on se moquait de lui. La vanité d'Émile bouillonnait à cette pensée. Vraiment, il oserait ce d'emblème ? C'est que, en vérité, il ne paraissait pas avoir le moins du monde conscience de son infériorité. Il tombait sur le dos des gens avec la plus parfaite aisance, comme un être qui se croit des droits à être bien reçu partout, et quand on essayait de le tenir à l'écart, il prenait de ses airs d'ironie tranquille, parfaitement irritant. Mais ce n'était pas lui, Émile Monceau, qui s'abstiendrait pour cela de le remettre à sa place dès que l'occasion s'en présenterait. Là-dessus, il s'en alla au cercle, car le rendez-vous prétexté pour écourter la visite de son camarade d'autrefois n'avait jamais existé. M. Monceau-père, lui, était venu un jour voir Lorenzo. Assez brave homme, il se trouvait personnellement disposé à témoigner de la cordialité au fils de son ancien ami. Mais il subissait quelque peu l'influence de sa femme et de sa fille, dont la vanité ne supportait pas qu'il nouât des relations avec cet Africain, revenu à peine moins pauvre que Job, car sa belle-mère assurait qu'il n'avait en fait de linge et de vêtements que le strict nécessaire. Afin de bien lui faire entendre qu'il n'eût pas à renouveler sa visite, ces dames, lorsqu'elles le rencontraient, répondaient à peine à son salut. Quant à Madame et Mademoiselle Barbelier, ses cousines, elles s'obstinaient à ne pas le reconnaître, et M. Barbelier, sans s'arrêter, marmottait dédaigneusement au passage « Ah, bonjour !» « Bonjour, mon garçon !» Lorenzo, alors, riait silencieusement, avec une lueur d'amusement sarcastique dans le regard.